Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de l'Épargne, à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser à certains mensonges de la gauche, parce que c'est pas des erreurs, ce sont des mensonges pour moi. Et d'ailleurs, je vais le prouver. Donc ça va être une sorte d'émission un peu débunkage sur deux grands mythes. Qu'on retrouve beaucoup ces derniers temps, ces dernières semaines, même ces derniers mois, et qui nous viennent des porte-paroles du Parti socialiste, des écolos, de la France insoumise, de certains économistes de gauche qui ont toutes les capacités académiques du monde,
Non,
mais
ils arrêtent pas de faire des fausses statistiques à partir desquelles ils décrivent le monde tel qu'ils pensent qu'il est. Donc,
ça
c'est
fait
des.
partie des compétences académiques requises.
Oui, mais en principe, si vous voulez, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas un scientifique. Si vous falsifiez vos données,
Ouais.
ça veut dire que vous êtes un religieux.
Tout à
Et
fait.
donc, ces gens-là ne sont pas des scientifiques. Des gars comme Piketty et compagnie sont des gars qui mentent parce qu'ils ont un but politique. Et donc, ils mentent par omission. Les Anglais ont montré, les grandes universités anglaises ont montré que tous les travaux de Piketty, il y avait beaucoup de chiffres qui étaient faux, qui étaient inventés, qui étaient à la main. Donc, ce sont des gens qui mentent. Et soit ils ne le savent pas qu'ils mentent, mais j'arrive pas à le croire, ou ils le font, et à ce moment-là, ce sont des gens qui ne sont, qu'on ne devrait pas interroger parce qu'ils sont pas honnêtes.
Tout à fait. Et on les interroge beaucoup, notamment le Gabriel Zucman, qui est en ce moment sur le service public. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le programme Zucman matin, Zucman midi, Zucman
Et ce qui
après-midi,
est
Zucman
extraordinaire, c'est que le
soir.
service public l'interroge alors qu'on sait qu'il a été refusé à Harvard pour avoir manipulé ses données.
Sans aucune contradiction. Je veux dire,
Hein?
on pourrait le recevoir, je suis pas contre qu'il passe à la télé. Enfin là, on a vraiment
Mais
l'impression que c'est
pourquoi
un
fallait-on
forcing
passer à la
organisé.
télé un type qui a été refusé dans une grande université américaine parce qu'il avait manipulé ses données? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça veut dire que tous les gens de France, culture ou j'en sais rien, pensent que manipuler les données pour la bonne cause, c'est légitime.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est légitime. Donc bref, on va aller dans le vif du sujet. Le premier grand mensonge, mensonge ou manipulation, comme vous voulez, c'est l'histoire des 200 milliards d'aides aux entreprises, plus précisément 211 milliards.
Tant qu'à faire autant être précis.
Donc le narratif est le suivant, le contribuable français finance à hauteur de 211 milliards par an les actionnaires des grandes entreprises de ce pays. Et là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, la première chose, c'est le prisme, c'est-à-dire le fait de se focaliser sur les grandes entreprises, parce que le chiffre donc de 211 milliards, il est issu d'un rapport rédigé fa par Fabien Gay, qui est un sénateur communiste. Dans ce rapport, la définition claire de grande entreprise est donnée, mais derrière, elle n'est pas suivie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions en droit d'une grande entreprise. Là, en l'occurrence, la définition qui est reprise, c'est celle qui est issue d'une directive de la Commission européenne, à savoir plus de 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Ce que directement après, le rapporteur explique qu'en fait, il va retenir une approche beaucoup plus souple et pragmatique. Bref, on ne sait pas vraiment ce qu'est une grande entreprise dans son rapport. Le rapport établit au passage qu'il y a 1 600 grandes entreprises correspondant à la définition qu'on a donnée précédemment, ce qui représente au passage 46% de l'emploi salarié total et la moitié de la valeur ajouté national. Donc ça fait un paquet. Deuxièmement, il y a aussi une confusion entre les grandes entreprises et la sous-traitance. Or, le rapport lui-même dit que les grandes entreprises n'ont pas connaissance des potentielles aides dont bénéficient leurs sous-traitants. Donc ça veut dire qu'elles-mêmes ne savent même pas si elles peuvent bénéficier de ces fameuses aides. Et ensuite, le truc, c'est que qu'est-ce que ça veut dire des aides? Ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être des prêts de la BPI, donc ça veut dire c'est des prêts qui sont pas gratuits, hein. C'est des baisses de TVA, c'est des crédits d'impôt, et puis ensuite, à la fin, on a effectivement des subventions, c'est-à-dire des aides littérales aux entreprises. Donc typiquement, par exemple, la SNCF en reçoit un paquet. Donc déjà, le rapport, comment il définit l'aide publique à une entreprise? Il dit une aide publique publique à une entreprise désigne le plus souvent un soutien financier, voire un soutien non financier, accordé par une personne publique ou une personne assimilée, visant à modifier son comportement conformément à des objectifs de politique publique afin de favoriser la création d'entreprises, l'investissement, l'innovation, l'emploi, la formation, l'export ou encore la transition écologique, pour ne prendre que ces exemples. Les aides publiques peuvent soit encourager des comportements engendrant des externalités positives, comme la recherche et le développement, ou lutter contre des externalités négatives, comme la pollution. Donc déjà, plusieurs choses. Ça ne concerne pas que les grandes entreprises, ça concerne aussi des petites entreprises et la sous-traitance. Et d'autre part, ce ne sont pas des aides données comme ça. C'est-à-dire que ce sont des aides qui sont données dans le but de réaliser des politiques publiques. Typiquement, ça me fait penser à une citation très connue de Ronald Reagan. Les gouvernements ont une vision très sommaire de l'économie. Si ça bouge, on ajoute des taxes. Si ça bouge toujours, on impose des lois. Si ça s'arrête de bouger, on donne des subventions. Il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire on va par exemple faire une loi sur l'écologie. On va avoir une entreprise qui va être pénalisée par cette loi-là. Qui va se dire, ah bah du coup, on n'a pas le droit d'utiliser tel ou tel produit. Donc on va avoir besoin d'utiliser un produit plus cher.
Est-ce que dans les 200 milliards, il y a toutes les subventions qu'on file aux éoliennes et aux miroirs magiques?
Oui, absolument.
Mais ça, donc, ça n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas des subventions. Donc,
bah oui.
Ça ne devrait pas être compté, puisque c'est un... sans les subventions, il n'y aurait rien, quoi.
Oui, bah oui, absolument. Et pareil, il y a des... Après, c'est aussi... les subventions, techniquement, c'est entre guillemets...
Les subventions à la SNCF.
Oui, c'est presque 9 milliards.
Bah, ça doit être plus, à mon avis.
Alors, c'est 9 milliards pour les subventions directes, et puis après, il y a les allégements de cotisations aussi.
Et puis, il doit y avoir les retraites aussi, non ?
Oui, après, il y a tout ça.
Les retraites de la SNCF et tout ça ?
Oui.
Et alors, les retraites du secteur public, elles sont mises où, ça ?
Ah bah là, du coup, c'est pas compris dans les aides aux entreprises, mais c'est colossal.
Bien sûr, c'est colossal. Les entreprises publiques dont les fonds, dont les retraites n'ont pas été provisionnées, on paye des retraites aux retraités quand même.
Oui, bien sûr.
Et c'est pas des subventions, ça.
Ça, je sais pas exactement où sont ces lignes-là dans les comptes publics. Mais effectivement, c'est un vrai sujet parce que c'est absolument colossal et on a beaucoup de mal à les estimer. On en parlait l'autre jour, par exemple, dans le budget de l'éducation nationale, ça représente une part très importante, ce qui fait qu'on a l'impression que le budget, en fait, par élève,
et
voilà, qu'on paye beaucoup les professeurs, qu'on a un budget par élève qui est énorme, alors qu'en fait, le budget est largement boosté par les cotisations énormes qui sont de plus de 80% dans l'éducation nationale. Et ça, c'est dans le budget du ministère derrière.
Vous savez ce qu'on devrait faire ? C'est supprimer tous les impôts et toutes les subventions sur les entreprises.
Mmh. Moi, je suis d'accord.
Ce serait tellement mieux comme ça, si vous voulez, il n'y aurait pas de subventions, il ne paierait pas d'impôts.
Absolument.
Et puis, si les entreprises payent des dividendes, ben nous, on paierait des impôts sur les dividendes qu'on touche.
Oui, bien sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce chiffre de 200 milliards d'aides aux entreprises, à chaque fois, il est brandi par la gauche. Encore une fois, avec le narratif de « on engraisse ces salauds d'actionnaires ».
On engraisse M. Arnault.
Mais voilà, exactement.
Je ne crois pas que M. Arnault reçoive un sou de subvention.
Mais non, c'est absolument pas ça. C'est à chaque fois soit des allègements de... C'est-à-dire, c'est des allègements de cotisations, notamment dans des domaines où, s'il n'y avait pas ces allègements de cotisations, les emplois, qui sont souvent des emplois à bas salaire, n'existeraient tout simplement pas.
C'est ça, donc on y partirait.
Voilà, c'est-à-dire que le manque à gagner, déjà, il y a une différence entre une dépense et un manque à gagner. Pour les subventions, ce sont des dépenses. Pour tout le reste, c'est un manque à gagner, que ce soit des crédits d'impôt ou des machins. Sauf que le truc, c'est que c'est l'idée qu'on se fait du manque à gagner, il est maximal. Évidemment, il n'aurait pas lieu réellement si on mettait au niveau normal.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que bon. J'imagine que c'est pas nouveau, la subvention aux entreprises en France. Si c'était nouveau, ça se saurait. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été faite par, je sais pas, la Cour des comptes, etc., sur la rentabilité de ces subventions historiquement? C'est-à-dire que depuis 15-20 ans, la France a distribué des subventions monstrueuses à des tas de gens. Est-ce qu'on sait ce que ça a rapporté, ce que ça a coûté vraiment? Parce que c'est bien joli de dire il y a 200 milliards par an, mais
ouais.
Moi, en tant que citoyen, j'aimerais bien savoir si ces 200 milliards ont rapporté quelque chose, coûté quelque chose, parce que si ça rapportait plus que ça n'a coûté, c'est pas une subvention, c'est un investissement.
Ouais.
Est-ce que je veux dire, si ça ne fait que coûter, c'est autre chose.
Bien sûr.
Donc, il faudrait faire une différence entre la subvention et l'investissement. Par exemple, j'imagine qu'au départ du programme nucléaire français, il y a dû y avoir des subventions monstrueuses.
Mmh.
Mais c'était pas des subventions, c'était un investissement de
Oui,
l'État.
on peut considérer que c'est un investissement, oui.
Donc, si vous voulez, cette histoire d'appeler l'État donne de l'argent à des entreprises. La question, c'est qu'est-ce qu'elles font? Des investissements ou elles payent les charges sociales avec? C'est ça la question. C'est encore une fois, c'est
Oui.
donc c'est
Hein, c'est pour payer ou ne pas payer, c'est l'allègement, c'est pour ne pas payer les charges sociales, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que là, pareil, je reprends un fil de Nicolas Alfonsi qui a fait un super fil sur cette histoire des aides aux entreprises. Il différencie à juste titre en trois catégories ces aides. On peut considérer qu'il y a une catégorie fiscale, c'est-à-dire c'est tous les crédits d'impôt, on va pas les citer parce qu'il y en a 474, donc ça fait
Non,
un
mais comme
paquet de trucs.
474. Ce que je me tue à dire, c'est ce que disent tous les spécialistes des impôts, c'est que les impôts et les subventions, ça doit être avec une assise très large et être très clair et très facile à
Oui, tout à
comprendre.
fait.
Et quand vous avez, je crois qu'il y a 600 impôts en France et 474 formes de subventions, mais comment voulez-vous qu'on puisse contrôler ce que fait l'État et ce que fait le pouvoir politique?
C'est quasiment impossible.
C'est quasiment impossible.
C'est un millefeuille, on n'y comprend rien, les trucs ont des noms différents, enfin c'est
Moi,
il y a
j'ai
des
été à
manières
un
de
type qui me
compter.
demandait de l'argent il y a quelques années, c'était il y a 5-6 ans. Il était arrivé avec deux disques, vous savez, pour me montrer qu'il avait mis sur les deux disques toutes les subventions et tous les coûts, etc., de l'immobilier en France. Pour toute forme d'immobilier, il disait, vous voyez, ça, je peux vendre ça très cher parce que j'ai fait tout le travail et tout. Mais je me disais, mais quelle est la valeur ajoutée de ce truc-là? C'est quand même extraordinaire. S'il n'y avait pas toutes les subventions, toutes ces crétineries sur l'immobilier, il n'y en aurait pas besoin de ça. Donc, cette incapacité, cette capacité à empêcher les autres de travailler par l'intermédiaire des régulations, et donc vous mettez des réglementations, des subventions, parce que les réglementations créent du chômage, donc vous allez mettre des subventions. Voilà. Enfin, bref.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des cotisations trop élevées. Donc en fait, ça veut dire que le coût de l'emploi est trop élevé. Donc ça veut dire qu'il y a des salariés, enfin comment dire, des emplois qui devraient exister qui n'existent pas. Du coup, on est obligé de baisser les allègements, enfin
Donc on file une
d'alléger,
subvention et
voilà.
ensuite on vous reproche d'avoir maintenu ces emplois grâce à la subvention. Mais
Exactement.
s'il n'y avait pas les charges sociales, j'aurais pas besoin de vous, quoi.
Exactement.
Bref, c'est encore une histoire de fond.
Voilà, donc ces crédits d'impôt, ça représente 73 milliards de manque à gagner en théorie. Le côté socio-fiscal, donc c'est les allègements, les exonérations de cotisations, donc ça c'est les histoires de CICE, etc. Ça c'est 91 milliards. Au passage, du coup, ces 91 milliards, ils ne sont pas un manque à gagner pour le budget de l'État, mais pour le budget de la Sécu, puisque c'est les cotisations. Donc déjà, pareil, c'est pas 200 milliards en moins pour l'État. Et le côté budgétaire avec les subventions directes, et là c'est de l'ordre de 35 milliards. Et pareil, dans ces 35 milliards, du coup, on retrouve la SNCF à la hauteur de 8,75 milliards, et c'est en augmentation chaque année, ça augmente très très vite. On retrouve aussi, par exemple, le cinéma français, avec le CNC, les trucs comme ça. Donc là, c'est à
Ça
peu près.
bénéficie à Bernard-Henri Lévy, oui, c'est dans votre
Ouais,
sens.
voilà. Donc ça, c'est 1 milliard par an, par exemple. Donc c'est 1/35e, le cinéma français, des subventions totales, déjà. Donc c'est
Pour faire
assez
des films que
énorme.
personne ne va
Pour
voir.
faire des films, voilà, exactement, avec 1 400 personnes dans toute la France qui vont regarder, parce qu'ils sont obligés de faire une critique pour leur rédaction, voilà, sinon ils iraient pas regarder. Enfin bref, donc à chaque fois c'est que des trucs comme ça, c'est-à-dire que la gauche dans l'ensemble regarde le truc et dit mais il y a 200 milliards pour les entreprises, c'est insupportable, et ensuite on regarde ligne par ligne ce qui compose ces 200 milliards, et moi je veux bien qu'on les supprime, moi je veux bien les regarder dans les yeux, mais allez-y, rayez les lignes une à une. Le truc c'est que on fait des allègements d'impôts et de cotisations pour réaliser justement leur rêve de politique publique, pour essayer de réduire le chômage,
Pour
pour
permettre à la
l'écologie.
SNCF de se mettre en grève 6 fois par an
Voilà, exactement.
au moment des départs en vacances. Tiens, j'ai vu quelque chose, c'est que sur le nombre des grèves en France, 2% étaient faites par le secteur privé et 98% par le secteur public ou parapublic. C'est-à-dire que les seuls qui
Je suis
font
pas
grève,
étonné.
c'est les agents du service public, ceux qui
Ouais.
touchent les 200 milliards, là.
Ouais.
C'est bien?
Oui, c'est une très bonne chose, ouais,
On
absolument.
sent que. Il y a des gens qui touchent de l'argent public et qui trouvent qu'ils n'en touchent pas assez.
Oui, bien sûr. Et sur les cotisations, parce que c'est quand même la somme la plus importante dans ces trucs-là, je tiens à remettre ce graphique que je trouve très intéressant. Décomposition du coût du travail, c'est la page 6 sur mon document. Décomposition du coût du travail pour un salarié moyen, donc depuis 1950. Vous voyez une ligne, la plus haute, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le super brut, ce que paye l'employeur. Vous avez le salaire brut, la courbe noire, et puis vous avez ensuite la courbe bleu clair, c'est ce que reçoit le salarié, donc le salaire net. Et on voit que plus les années passent, plus le temps passe, plus on voit que, et surtout il y a une grosse différence à partir de 1977-1979 à peu près, c'est-à-dire que là vraiment le super brut continue d'augmenter, mais le net stagne beaucoup plus. Donc là
c'est
aussi...
C'est les années Mitterrand ça.
Oui, absolument, absolument. Bah, les années 80, là, on voit, ouais, tout à fait. À partir de la fin, à peu près, du mandat de Giscard, et ça explose sous Mitterrand, on voit une surdifférenciation entre le salaire super brut et le net.
Et c'est ce que prend l'État. C'est-à-dire,
oui, voilà.
Et c'est parce que, c'est ce que prennent les transferts sociaux.
Oui. Voilà, c'est ce que les gauchistes appellent le salaire différé. Parce que effectivement, on peut le repercevoir derrière sous forme de chômage, sous forme de retraite, etc. Donc c'est pas de la pure perte, mais enfin quand même, c'est ce dont on ne dispose pas sur le moment. Et
ce que Delors disait, c'est que quand on lui montrait ce graphique qui existait déjà à son époque, hein,
ouais.
Il disait mais vous savez, la ligne en bas, c'est ce que le particulier peut dépenser pour lui. La ligne en haut, c'est le bénéfice social.
Oui.
Et donc, il faut que dans une démocratie normale, la ligne en haut monte beaucoup plus vite que la ligne en bas, quoi.
Oui, oui.
C'était la grande thèse de Delors, qui était ministre des Finances quand même.
Ouais, ouais, bien sûr. Sauf que le truc, c'est que si on pouvait faire ce qu'on voulait avec la ligne bleu foncé, ben en fait, on pourrait beaucoup plus facilement capitaliser pour notre retraite.
Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est quand vous regardez ça et que vous voyez que dans les autres pays, c'est pas pareil, vous vous dites, si je passe dans le pays d'à côté, je touche la ligne en haut et pas la ligne en bas, donc si ça vous fait rien, je vais aller travailler dans le pays d'à côté, quoi.
Ouais, tout à fait.
On exporte les bacs plus 7, quoi.
Absolument. Voilà, donc c'est pas étonnant que ce soit compliqué d'embaucher quelqu'un en France quand vous voyez ce différentiel-là, et c'est pas étonnant non plus à quel point l'employeur perçoit un salarié comme étant très cher et l'employé perçoit son salaire comme étant très peu cher.
Ouais, moi j'ai embauché quelqu'un donc pour travailler à temps partiel dans mes affaires personnelles. Cette jeune personne me coûte à peu près 4 200 et elle touche 2 000, quoi.
Ouais.
Par mois.
Mais la différence est juste colossale.
Donc elle me dit avec 2 000 je peux pas vivre à Paris. Ben je dis oui, mais avec 4 000 moi.
Ouais.
Ça me coûte cher. Hein.
Oui, bien sûr.
Tout ça est très...
Forcément, voilà, comme c'est une situation compliquée pour beaucoup d'entreprises, même par exemple, on peut penser à la grande distribution. Carrefour, ils ont 300 000 employés en France, donc c'est colossal. Donc Carrefour, par exemple, ils ont des allègements de cotisations à hauteur de 120 millions d'euros par an, parce que sinon, en fait, il y aurait, je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes à la rue d'un seul coup.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire aussi à Carrefour, etc. C'est qu'on remplace, par exemple, les caissières par des machines électroniques.
Ouais.
Vous savez, vous, c'est à vous de faire le clic-clic. On se rend compte à quel point ce graphique explique pourquoi la France est le seul pays qui, depuis 1960, la crise pétrolière de 1970, n'a jamais vu son taux de chômage tomber en dessous de 7%. Tous les autres pays de l'OCDE, à un moment ou à un autre, c'est tombé à 4%, c'est tombé à 3%. Nous, on est toujours resté au-dessus de 7%. On n'a jamais réussi à descendre en dessous de 7%. Pourquoi ? Parce que le coût du travail est beaucoup plus élevé.
Ouais, c'est extrêmement élevé, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est
malgré
pour ça
toutes
que...
les subventions.
Oui. Voilà. Et d'ailleurs, même dans ces allègements de cotisations, etc., on a aussi des entreprises publiques qui en bénéficient. D'ailleurs, les deux plus grosses entreprises à en bénéficier, c'est des entreprises publiques, à savoir La Poste, à hauteur de 350 millions d'euros, et la SNCF, qu'on retrouve encore une fois à hauteur de 320 millions d'euros par an. Donc, il faudrait les ajouter aux presque 9 milliards que ça représente en termes de subventions. Donc, voilà, pour clore ce chapitre sur les 200 milliards des deux entreprises, je pense avoir fait un
c'est
peu
exactement
le tour.
Comme vous auriez, je ne sais pas si vous avez fait un sujet là-dessus, mais il faudra qu'on le fasse un jour, c'est sur les 100 milliards de fraude fiscale.
Mm-hmm.
C'est un truc qui a été fait par le service de la CGT, du ministère des Finances il y a 10 ou 20 ans, qui n'ont jamais justifié, et ce chiffre a été repris partout depuis. C'est-à-dire que personne ne justifie. Quand vous en parlez à un type comme Charles Pratt, il vous dit non, la fraude, c'est entre 20 et 30 milliards à tout casser, et encore on réussit à rattraper une partie et tout. Mais les gens de gauche vous disent qu'il y a 100 milliards de fraude par an. Et ça n'a jamais été justifié.
Ouais.
Ouais, bah c'est un chiffre tiré d'un chapeau.
Ouais. Je serais pas étonné que, venant de la CGT, ils prennent toute forme d'optimisation fiscale comme de la fraude.
C'est ça, c'est ça.
Sachant que c'est, voilà, sachant que c'est un dispositif légal. On peut essayer si de vous limiter.
Comme le dit la Cour suprême des États-Unis, le devoir de chaque citoyen, c'est de payer le moins d'impôts possible légalement. C'est le devoir de citoyen, c'est pas de payer le plus d'impôts possible. Ils vous donnent des avantages fiscaux, je sais pas pourquoi, mais c'est à vous de les prendre pour payer le moins d'impôts possible. Parce que c'est votre pognon, c'est pas celui de l'État, quoi.
Ouais. Bah, nous, c'est un peu l'idée inverse. Hein.
L'idée de propriété.
100%, vous êtes un bon patriote, bravo.
Voilà, mais c'est comme l'idée de propriété, si vous voulez. Quand vous voyez tous ces économistes de gauche qui disent les Français ont 6 000 milliards d'actifs, donc l'État peut s'endetter. Mm-hmm. Mais je dis, attendez une seconde, ça c'est la dette de l'État, ça c'est l'actif des partis de
Français. Oui.
Donc le droit de propriété, c'est un droit constitutionnel, vous n'avez pas le droit de piquer la propriété des Français. Quelle que soit la raison, mais ça fait. Donc, si vous voulez, cette idée que ce qui appartient à vous est, dans le fond, de façon subliminale, une propriété collective, ça vous appartient à vous tant qu'ils le veulent bien. Mais s'il y a une majorité de gens qui décident de vous voler votre propriété, dans la mesure où c'est une majorité, c'est légal. Ben non.
Oui. Ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, alors juste derrière, on va du coup parler de la fameuse taxe Zucman. Y a un truc qui m'a dérangé. Je me suis posé la question de ce que vous en penseriez. Alors, c'était pas expliqué de manière très subtile, mais il y a eu un sondage qui a été commandé par, je crois que c'était par le Parti Socialiste, mais du coup fait par l'IFOP, donc je ne vais pas imaginer que l'IFOP a trafiqué tous ces chiffres pour plaire au Parti Socialiste.
Pour faire plaisir à son client, c'est pas possible.
Mais enfin, partons du principe que c'est pas le cas. Ils ont posé une question parmi d'autres, c'est seriez-vous pour mettre un impôt de 2% sur les très hauts patrimoines, et il y avait une large majorité de Français, à peu près plus de 80%, qui étaient favorables à ça, donc favorables dans les grandes lignes à l'idée de la taxe Zucman. Alors, je me suis posé la question de votre point de vue, sachant que vous êtes très pro référendum d'initiative citoyenne, etc. Et qu'est-ce que vous penseriez d'un référendum sur cette question-là ?
Moi, il faudrait faire un référendum sur une question tout simple, c'est que ce serait le flat tax.
Ouais.
C'est-à-dire que vous gagnez 100 millions, vous payez 20%. Sur vos 100 millions, vous payez 20 millions. Vous gagnez 100 000, vous payez 20% sur vos 100 000. Donc tout le monde paye la même chose. Ouais. Ça, c'est la justice. Vous payez en fonction. Cette histoire de mieux vous réussissez, plus vous devez payer, c'est une imbécilité, parce que vous enlevez l'argent de ceux qui savent quoi en faire pour le filer à ceux qui savent pas quoi en faire, par définition. C'est encore une fois
la parabole
des talents. Vous filez tout le pognon à celui qui l'enterre et vous l'enlevez à celui qui le réussit. Donc pour moi, c'est très, mais ces histoires, je vais me permettre de raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans ma vie. C'était quand une municipalité socialiste avait été élue à Bâle-Ville. Vous savez, c'est un canton en Suisse, c'est Bâle-Ville. Et ils avaient décidé de mettre un impôt sur la fortune des gens de Bâle-Ville. Et du coup, tous les gens de Bâle-Ville qui avaient de la fortune étaient allés vivre de l'autre côté du Rhin, à Bâle-Campagne, quoi. Vous voyez, c'était... Et comme ces 30 ou 40 personnes qui étaient richissimes, parce qu'il y a d'énormes fortunes à Bâle, chimiques en particulier, aux pharmaceutiques, payaient 50% des impôts de Bâle-Ville, ben, il a fallu augmenter massivement les impôts sur les pauvres gens de Bâle-Ville, parce que la moitié de la recette est partie les verser à Bâle-Campagne, quoi.
Ouais.
C'est ce que je veux dire.
Ouais.
Donc,
ce qui a créé un trou.
Ce qui a créé un trou.
Le trou de Bâle.
Le trou de Bâle, exactement. Et oui, tout à fait. Et ce qui est tout à fait ça. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, mais aujourd'hui, probablement dans l'impôt sur le revenu, il doit y avoir, 50% de l'impôt sur le revenu qui est payé par même pas 10% des gens. Mmh. Si vous forcez ces gars à partir, parce que si vous leur prenez 2% par an de leur capital, c'est évident qu'ils vont s'en aller. Surtout que, en plus, c'est anticonstitutionnel, mais ça, on peut en parler. Le but, dans une société qui fonctionne, c'est pas de punir les riches. C'est que ceux qui sont tout en bas voient leur niveau de vie monter graduellement.
Absolument.
Donc, c'est ça une démocratie qui fonctionne, c'est que ceux qui sont tout en bas s'améliorent sans arrêt.
Tout à fait.
Or, à force de taper sur les riches, de taper sur le travail, de taper sur ceux qui ont réussi, quand vous regardez, c'est la première fois dans l'histoire de France, depuis à peu près l'arrivée de Macron, c'est pas un hasard, les gens les plus pauvres se sont appauvris, ont vu leur niveau de vie baisser de 15%. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'horrible aujourd'hui, c'est qu'à force de taper sur ceux en haut, on fait s'écrouler le niveau de vie. Ceux en haut, ils se barrent, ils font de l'optimisation fiscale, ils en souffrent pas.
En quelque sorte, plus on est riche, plus on a aussi les moyens de contourner.
Mais par contre, si vous êtes plus là, je sais pas, si vous avez autrefois, je sais pas, 2 ou 3 maisons en France, à chaque fois vous aviez un gardien, vous avez des gens comme ça. Si vous vendez vos maisons en France et que vous allez vivre en Suisse, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de jardinier, il n'y a plus de pourquoi faut refaire le toit, tout ça, ça disparaît. Donc, vous pensez que vous punissez les riches, en mettant sur un truc à 2%, que vous allez devenir enfin égaux, mais en fait, vous punissez les plus pauvres, dans la réalité. Vous pensez que vous punissez les riches, et donc vous dites chouette. Et c'est-à-dire que ça... Quelqu'un qui vous dit il faut punir les riches, c'est un jaloux et un envieux. Et donc vous ne devez jamais suivre les.
Il y a beaucoup le fantasme de finalement le comment dire toute monsieur, différence.
Le
est
fait
une
que Monsieur Arnaud soit très riche me rend beaucoup plus pauvre.
Voilà, c'est ça. J'ai vu un graphique l'autre jour qui montrait. J'aurais peut-être dû l'inclure d'ailleurs dans ce document, qui montrait l'augmentation du patrimoine sur ces 5 ou 10 dernières années des genre 500 plus riches, et on montrait que la France était parmi les premiers pays au monde, probablement la France et les États-Unis devaient être devant, et dans les pays dans lesquels les milliardaires avaient un peu moins progressé, il y avait l'Allemagne, le Brésil, enfin bref, il y avait plein de pays comme ça. Et je me suis fait une réflexion toute simple, c'est que selon cette infographie, donc c'était plutôt une bonne situation d'être milliardaire en France, tant mieux, et ça n'a rendu personne moins riche en France.
Et en plus, sur ces gens qui étaient en France, les actionnaires et tout, il y en a un paquet qui devait vivre en Suisse, en Bruxelles ou n'importe quoi, qu'on avait compté en France.
Il faut rappeler aussi que pour le cas de la France, spécifiquement, plus qu'ailleurs, nos milliardaires, je pense notamment à Bernard Arnault, mais aussi à d'autres, font l'essentiel de leurs bénéfices, leurs entreprises font l'essentiel de leurs bénéfices hors de France.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu depuis 15-20 ans un énorme mouvement de mondialisation, que la France avait des sociétés qui étaient capables de bénéficier de ça, et donc que ça enrichit extraordinairement des gens comme Bernard Arnault qui avait des... Par exemple, quand j'étais enfant, Hermès, vous savez, sa boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, bon, il y avait quelques boutiques en France, et puis c'était tout, quoi. Donc les gens qui possédaient Hermès, ils vivaient bien, mais enfin, c'était pas... Et puis d'un seul coup, ils ont mis des centaines de boutiques en Chine, aux États-Unis et tout. Et donc, l'une des plus grosses fortunes de France aujourd'hui, c'est la famille Guérin-Hermès, qui a en effet un pognon pas croyable. Mais c'est simplement parce qu'ils ont développé des affaires et qu'ils sont sortis de France. Donc,
oui, tout à fait.
Si vous avez des... En Italie, ça s'est beaucoup moins passé, donc il n'y a pas eu ce mouvement. Mais c'est simplement parce qu'on a eu des gars, comme justement la famille Hermès, etc., qui ont développé des business mondiaux. Ils sont passés de business parisien à business mondiaux en l'espace de 30 ans. Évidemment que leur fortune a augmenté.
Bien sûr. Et tant mieux.
Et
donc, pour revenir au commencement, qu'est-ce que la taxe Zucman ? Donc, c'est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine net, donc c'est les actifs moins les dettes, qui dépasse 100 millions d'euros. Donc, par exemple, pour un patrimoine de 150 millions d'euros, la taxe s'appliquerait sur les 50 millions excédentaires en plus des 100 millions, soit du coup 1 million d'euros d'impôt minimum par an. Ça concernerait du coup environ 1 800 foyers fiscaux en France, c'est-à-dire 0,01% des contribuables. Et il y aurait un mécanisme de plancher, c'est-à-dire que si les impôts déjà payés, donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, etc., couvrent déjà au moins 2% du patrimoine taxable, ça veut dire qu'aucun paiement supplémentaire n'est dû, et sinon, c'est un complément qui est exigé pour atteindre ce seuil. Et les recettes estimées de cette taxe, qui fort heureusement n'existe pas encore, ce serait 25 milliards à tout péter. Voilà. Alors, plusieurs critiques. Déjà sur la taxe en elle-même, d'un point de vue du droit, c'est la possibilité, même la probabilité, que ce soit tout simplement inconstitutionnel.
Oui, c'est vrai, parce que, c'est-à-dire que voilà. Vous taxez une fortune qui n'est pas réalisée. C'est-à-dire qu'au moment, quand vous faites une vente, vous avez un acte qui se passe, mais là, on calcule votre fortune, vous avez un certain nombre d'actions qu'on multiplie par le cours de l'action, mais...
Oui.
Mais vous l'avez pas vendu, ouais. Donc vous n'avez pas eu d'un transfert de richesse, vous n'êtes pas passé d'une valeur d'une action à du cash, ouais. Donc ça vous force à passer d'une action à du cash, hein, parce qu'il faudra que vous vendiez vos actions pour le faire.
Oui. Et voilà, nous avons deux principes en droit notamment qui peuvent concerner cette taxe. C'est déjà notre principe d'égalité et puis le principe de proportionnalité à la capacité contributive. Et là-dessus, le Conseil constitutionnel avait déjà tranché. La dernière fois, c'était en 2012 sur la question de l'imposition des très hauts revenus par
Hollande,
François Hollande,
et
avait jugé que voilà, c'était pas constitutionnel. C'était la contribution exceptionnelle de 75% sur les très hauts revenus. Au-delà de 1 million par an. Voilà. Donc, comme ça contrevenait à ces principes-là, le Conseil constitutionnel a décidé que non, c'était pas possible. Donc déjà, d'un point de vue du droit. Ensuite, il y a un problème aussi pour valoriser du patrimoine illiquide. C'est-à-dire que il y a déjà un premier problème de valorisation, ce qui serait techniquement pas forcément infaisable, mais très lourd et litigieux. C'est-à-dire qu'on peut décider, par exemple, « Ah, vous avez un Picasso, ça vaut super cher. » Et moi, vous me devez, je sais pas, 600 000 euros sur votre Picasso. Et moi, j'ai envie de dire « Non, mais vous êtes complètement fou, ça vaut pas tant, etc. »
Non, mais c'est pas ça. C'est où est-ce que je vais les trouver, les 200 000 euros? Il m'a été laissé parce que ma grand-mère est des copines de Picasso. Donc, moi, j'ai ce Picasso. Donc, vous voulez que je le vende? Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas de...
Oui.
Comment je trouve le cash pour payer les 2%?
Ouais, ce qu'il propose,
vous prenez,
sinon...
Vous prenez 2% du tableau tous les...
Oui, oui, c'est ça, on découpe. On découpe,
on le refera à la fin.
vous avez pris 2,1%, là, c'est...
C'est complètement crétin. Et vous avez aussi des grandes fortunes, par exemple dans le domaine du vin, ou etc., qui sont, si j'ose dire, complètement illiquides.
Absolument.
C'est-à-dire que vous avez des domaines viticoles qui valent des 100 et des 1000, pour les très grands vins, c'est plus le cas dans le bordel aujourd'hui, mais... Et donc, votre bien vaut des dizaines de millions, mais il vous rapporte que dalle, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ça veut dire risque de cession forcée. Ou, ce qu'il propose aussi, c'est du génie, c'est de s'endetter. On propose de s'endetter pour payer les 2%, donc on va s'endetter à hauteur de 2%.
Ça veut dire un truc, si vous voulez, j'avais eu cette discussion avec des inspecteurs des finances à un moment du début de Mitterrand. Ils voulaient augmenter beaucoup les impôts sur l'immobilier, vous savez.
Oui.
Et je leur avais dit, mais vous savez, si vous faites ça, la valeur de l'immobilier va baisser de la valeur actualisée des impôts que vous voulez coller dessus. Donc en fait, vous allez toucher beaucoup moins que prévu, parce que votre immobilier, que vous pensez qu'il vaut 400, il va tomber à 100, compte tenu des impôts qu'il va devoir payer dans le futur. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, si vous mettez un impôt sur un bien,
ouais,
la valeur de ce bien va baisser de la somme actualisée des impôts qu'il va falloir payer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que vous avez, par exemple, sur une affaire de qualité en France, vous aurez le cours de bourse qui va baisser beaucoup parce qu'il va falloir payer des trucs, et vous aurez, je sais pas, BlackRock qui viendra l'acheter à la casse, quoi.
Exactement, absolument.
Et vous direz, ben, je veux pas que les affaires partent à l'étranger. Ben, mon grand...
ça va être un peu obligé, oui.
Ça va être obligé. Donc, c'est de la crétinerie économique.
Ouais.
Et ce que j'ai trouvé de plus surprenant dans là-dedans, c'est qu'ils vous disent, non, le but, c'est pas tellement de faire des recettes fiscales, mais c'est d'éviter qu'il y ait des gens trop riches en France.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils veulent, quelque part, ils pensent que les gens très riches, ça nuit à la cohésion sociale, et donc il faut empêcher les gens de réussir.
Ouais.
Et c'est vraiment le truc du socialisme, c'est-à-dire tous égaux, tous charbonniers, quoi. Mais c'est pas un but dans la vie. Si vous avez un Bernard Arnault dans votre pays, ben, mon Dieu, laissez-le devenir richissime. Il a créé, je sais pas combien de dizaines de milliers d'emplois en France, plus que tous ces crétins réunis, quoi.
Ce que vous dites est vrai. Alors, je vais prendre tout de suite cette.
Étonnant. Annoncer tranquillement que leur but, c'est dans le fond que tout le monde reste médiocre.
Ouais. Dans Le Triomphe de l'injustice, qui a été coécrit donc par Gabriel Zucman et un autre économiste dont le nom m'échappe à l'instant, au début du chapitre 8, qui s'intitule « Dépasser l'affaire », ils disent que ils n'ignorent pas du tout l'effet de l'affaire, puisqu'ils disent effectivement si on avait une imposition, admettons, de 100%, bah sans doute que les gens arrêteraient de travailler ou feraient tout pour faire en soum-soum pour pas payer leurs impôts. Donc évidemment qu'il existe un effet de l'affaire. Ça veut pas dire qu'on le connaît précisément, mais il existe. Et il dit un petit peu plus loin, dans ce chapitre, nous allons expliquer pourquoi des gouvernements démocratiques peuvent raisonnablement choisir d'appliquer aux riches des taux supérieurs à ceux qui maximisent les recettes fiscales. Donc en gros, on se retrouve déjà de l'autre côté de l'optimum de l'affaire. C'est-à-dire pourquoi détruire une partie de l'assiette fiscale peut être dans l'intérêt de la collectivité. Donc là, ils disent eux-mêmes, même si cet impôt, en fait, détruit une partie des recettes fiscales, au lieu de rapporter 25 milliards, ils en rapportent encore moins que prévu, et ils rapportent encore moins que ce qu'on avait avant, eh ben, ce serait quand même moralement correct.
Et pourquoi?
Je ne sais pas. Mais ce que ça veut bien dire, c'est que pour eux, c'est avant tout un impératif moral, et pas tellement un impératif économique.
Mais oui, mais c'est... J'entends bien, mais si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est... Est-ce qu'il existe une morale collective? Qu'est-ce qui donne le droit à ces corneaux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'imposer une façon de vivre à des gens qui ne font de mal à personne, si ce n'est de rechercher...
La maximisation des profits.
Non, mais qui cherche la maximisation des profits, ça veut souvent dire aussi d'offrir plus de services aux autres. C'est que, si vous voulez, Microsoft, ils ont gagné de l'argent, mais
oui,
parce qu'ils ont changé la façon.
C'est la création de richesse, littéralement.
Il y a eu une vraie création de valeur. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il faut limiter la création de valeur, c'est-à-dire le bien-être de la population en général, pour satisfaire leur incapacité à penser de façon généreuse.
Ouais. Alors, d'ailleurs, j'ai envie de dire, même si on reste sur le terrain de la morale, on peut reprendre l'histoire de la parabole des talents, puisque voilà, on peut dire, du coup, en restant sur ce terrain, que l'attaque Zucman est littéralement diabolique, puisque elle reprend les talents gagnés par le bon serviteur, qui a multiplié ses talents par deux.
Elle l'empêche
pour les donner,
de gagner.
Elle l'empêche de
elle
gagner.
Elle le force à enterrer.
Et elle le force à enterrer ses talents, et il faut autant que possible les donner aux serviteurs paresseux qui les enterrent.
Je vais vous raconter une histoire, parce que à ce moment, il y a Monsieur Zucman qui se promène dans la campagne en Normandie, et il trouve une petite grenouille qui est sur la route, comme ça. Alors, il dit, elle va se faire écraser parce que c'est un homme bon. Vous savez, il cherche le bien de la population. Donc, il ramasse la grenouille, il la met dans le fossé à côté. Comme ça, elle sera pas écrasée. Et la grenouille se transforme en fée et lui dit, tu m'as sauvé la vie, donc tu peux faire un vœu, mais je te préviens, monsieur Bernard Arnault aura deux fois ce que tu demandes. Alors, Monsieur Zucman réfléchit, et il dit, crevez-moi un œil. C'est ça, Monsieur Zucman. Crevez-moi un œil pour que Arnaud ait les deux yeux crevés.
Ouais.
C'est ça, cette espèce d'immonde jalousie aux dents vertes.
Ouais.
Cette espèce de saloperie d'empêcher les autres. C'est si vous êtes un artiste, etc., si vous voulez, c'est Salieri vis-à-vis de Mozart.
Ouais.
Si vous voulez. C'est ces gars qui n'ont pas de talent, qui n'offront jamais rien, qui sont juste des bons élèves, qui sont nuls, et qui veulent empêcher les autres de devenir ce qu'ils peuvent devenir, c'est-à-dire des êtres admirables.
Bien sûr. Et puis, ils savent aussi qu'en tant qu'économiste, c'est très courant de faire carrière en prenant un peu la même trajectoire que Piketty. C'est courant de faire carrière avec quelques polémiques en proposant des trucs que personne n'a jamais proposé, en disant, regardez, moi, je fais ça, et ça provoque des débats, etc.
Et tout Piketty, son bouquin à 2000 pages, etc., qui a fait un succès mondial, paraît-il, J'ai lu la première page et je me dis, ce type est un imbécile.
Alors expliquez pourquoi.
Mais c'est très curieux parce qu'il vous dit, la première page, il explique ce qu'il va montrer, c'est que R, la rentabilité du capital investi, ouais, est supérieure à G, le taux de croissance de l'économie. Donc ça veut dire que les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres, sauf si l'État empêche ça.
Ça sous-entend que les riches, enfin les capitalistes, prennent une partie
voilà,
de
plus en plus
de
importante
richesse.
Que les profits. Mais c'est complètement imbécile parce que moi j'avais dans ma famille, je raconte toujours une entreprise qui avait le monopole, une boulangerie industrielle dans une vallée pyrénéenne. Elle tournait à 5 ou 6% de rentabilité du capital investi, ce qui était supérieur au taux de croissance de l'économie française. Mais si vous achetiez une machine de plus, vous ne vendiez pas un pain de plus.
Oui.
Donc, ce crétin de Piketty confond la rentabilité du capital avec le taux de croissance des profits.
Oui.
Le taux de croissance des profits, avec un investissement supplémentaire, c'était zéro. Donc, il ne pouvait pas réinvestir à 7%. Donc, cet imbécile pense que si on gagne 10% sur le capital, on va pouvoir réinvestir à 10%. Oui. C'est une imbécilité logique. Je l'aurais eu comme élève, je l'aurais mis 0%. Vous confondez rentabilité du capital et taux de croissance des profits, ce qui sont deux notions différentes. Il y en a une qui est la dérivée première de l'autre. Donc, il a fait 1000 pages sur une hypothèse de base, R supérieur à G, qui est fausse.
Ouais. Oui, effectivement, si j'ai toujours les mêmes dépenses et que je fais 7% de rendement, mais que mon bénéfice ne bouge pas, c'est-à-dire que l'économie croît plus vite que mes bénéfices, forcément.
Ce qui se passe, c'est que vous êtes à 7%, mais vous touchez les 7% qui est un montant, mais ensuite, si vous achetez une machine,
c'est
vous
7%
ferez que
0. Et bouge pas.
Donc, ce que vous dégagez comme profit, vous devez le réinvestir dans le reste de l'économie. Ben, au taux de croissance du reste de l'économie.
Quoi. Oui,
donc c'est enfantin, c'est... confondre, quand vous êtes un économiste, rentabilité du capital investi et taux de croissance des bénéfices, c'est ne rien comprendre à l'économie.
Ouais, tout à fait. Et encore une fois, sur le droit, ça pourrait se heurter aussi.
En plus, il battait sa femme, paraît-il. Enfin.
Ah oui.
Oui, il était dans l'angle, c'était Philippe Petit, je sais plus comment il s'appelait. Il y a eu des mains courantes déposées parce qu'il tapait sur la dame, donc sur sa femme. Donc, si vous voulez, ça me paraît tout à fait un type de gauche, quoi. Il est jaloux, il tape sur sa femme.
Mais ça c'est très courant à gauche. Hein. Enfin, faut faire ses preuves.
Voilà, il montre sa virilité, je pense.
Ouais, sans doute. Et alors, il y a aussi un sujet, c'est que forcément, ça concerne que 1800 foyers. Donc, il suffit qu'il y en ait que quelques-uns qui partent, hein, quelques dizaines. Ça peut déformer considérablement le rendement. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire une exit tax. Sauf que là aussi, l'exit tax, elle serait en contradiction avec le droit de l'Union européenne. Parce que si je pars de la France pour aller en Belgique, en fait, normalement, le droit de l'Union européenne fait que vous ne pouvez pas...
C'est ce que ont fait ces crétins de socialistes en Suède, en Norvège. Mmh. En Norvège, qui fait pas partie de l'Europe. Il y a des socialistes qui sont arrivés au pouvoir et qui ont mis une taxe très importante sur les grandes fortunes. Vous savez, des idées brillantes comme ça.
Oui.
Donc, il y a une centaine de Norvégiens qui sont des normateurs, des trucs comme ça,
qui sont partis
vivre à Londres parce que c'est plus sympathique pour eux, puis ils sont très copains. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont immédiatement mis une exit tax. C'est-à-dire que vous voyez que ces gens-là partent d'une idée et ça se termine toujours en camp de concentration. Vous n'avez plus le droit de bouger, on vous empêche de bouger. Mmh. On vous met une exit tax et puis ensuite si vous voulez pas la payer, on vous mettra dans un camp de concentration qui serait spécialement fait. Et donc on voit bien que ça passe toujours par une augmentation du pouvoir de l'État et une diminution de la liberté individuelle.
Ouais.
Toutes ces trucs-là, c'est toujours une diminution de la liberté individuelle, toujours une augmentation de la contrainte.
Ouais.
Moi, si vous voulez, c'est ce que je dis toujours en rigolant, mais on m'a raconté il y a 30 ans qu'on allait mourir de froid, c'était le New York Times, puis ensuite il y a eu la couche d'ozone, et puis après il y a eu les pluies acides qui allaient détruire toutes les forêts, puis on allait, je sais pas ce qui allait se passer, on allait mourir de chaud, enfin bref. Il s'est jamais rien passé de tout ça, mais à chaque fois, on a augmenté les impôts et on a diminué mes capacités à bouger. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces espèces de trucs soi-disant pour le bien de tout le monde, en fait, c'est toujours pour diminuer votre liberté individuelle.
Ouais.
Et c'est ce qu'ils cherchent à faire.
Tout à fait.
Ces crétins sont des partisans acharnés du goulag.
Oui, du camp de concentration, oui, absolument. Et encore une fois, dans les justifications, alors c'est plutôt des prétextes hein, plutôt que des raisons, mais j'ai retrouvé plusieurs trucs, plusieurs justifications de Gabriel Zucman. Et alors, je tiens à dire que quand même, je remercie énormément un économiste qui s'appelle Sylvain Catherine, qui est économiste, je crois, qui est professeur à Wharton.
Oui, c'est-à-dire que lui, il a été exceptionnel aux États-Unis parce que ses
Voilà,
travaux étaient raisonnables.
tout à fait, et
C'était pas des fraudes.
qui est quelqu'un qui me semble tout à fait brillant, qui est très actif sur son compte
Wharton, c'est une
Twitter.
des meilleures universités des
Voilà.
États-Unis, hein.
Donc j'enjoins tout le monde à regarder ce qu'il fait sur Twitter. Par moment, faut s'accrocher un petit peu quand il fait quelques explications un peu techniques, mais en vrai, il n'y a rien de particulièrement inatteignable. Et par conséquent, j'ai largement pompé tout son travail pour faire
Du
ce
moment où vous
document.
citez vos sources,
Oui.
c'est pas grave, hein.
Oui, tout à fait. Non, mais je précise quand même, je pompe. Voilà. Et donc, il y a ce graphique, donc je mets page 12 de mon document, qui montre le patrimoine des 500 premières fortunes exprimé en pourcentage du PIB. Donc déjà, on a un premier problème parce que on a un patrimoine, c'est-à-dire un stock que l'on compare à un flux, à savoir le PIB. Et ce patrimoine, on voit qu'il passe de 1996 de 6,4% du PIB à 42% du PIB, laissant entendre que finalement il ne reste que 58% restant, donc pour du
C'est
gâteau
idiot.
pour le reste. Alors que c'est faux et je vais le prouver en deux points. Le premier point, c'est que, encore une fois, on compare pas vraiment des stocks et des flux normalement. Parfois, ça peut se faire, mais enfin, c'est pas la norme. Donc, on va prendre un autre graphique. On va prendre la richesse, le patrimoine donc du top 1% français, et on va le comparer au reste de la richesse nationale. Et aujourd'hui, elle est de 27%. Donc là, c'est le graphique que je mets juste en dessous, encore une fois, page 12. Aujourd'hui, c'est de 27%, et c'est pas en augmentation énorme. On voit que c'était un petit peu plus élevé en 2000. On voit que c'était plus élevé aussi dans les années 50 et début 60, que c'était très peu élevé au milieu des années 80. Enfin bref, il n'y a rien de particulièrement scandaleux depuis les années 2000 en termes de variation. Donc là-dessus, c'est plus pertinent de voir les choses sous cet angle-là. D'autre part, le deuxième graphique que je voudrais vous montrer sur cette question, c'est la valeur nationale totale des biens nationaux par rapport au PIB. Et là aussi, on voit qu'il y a des assez grosses variations, notamment depuis l'an 2000. En fait, c'est quelque chose qui est assez corrélé au prix de l'immobilier, puisque l'essentiel de la richesse nationale est en immobilier. Et donc, vous voyez que, par exemple, au plus bas, dans les années 50, le patrimoine national était d'un peu plus de deux fois le PIB. Et aujourd'hui, on est entre 6 et 7 fois le PIB. Donc forcément, si ce patrimoine exprimé en PIB augmente, bah le patrimoine des 500 premières fortunes va forcément augmenter aussi en proportion du PIB. Donc en fait là, on a une énorme manipulation de ce chiffre qui est censé nous faire croire que encore une fois, les 500 plus riches de France s'engraissent sur le dos des Français. Ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, il y a plus de la moitié de cette augmentation de richesse exprimée en pourcentage du PIB qui est due à l'augmentation toute bête du patrimoine national, encore une fois exprimée en pourcentage du
Et il y a
PIB.
aussi autre chose qu'il faut dire, ce qui est un peu. C'est que chaque fois que vous avez des inventions, bah, vous avez les types qui ont mis au point ces inventions,
Ouais.
dont le patrimoine explose, comme le patrimoine de Bill Gates, et ça ne veut pas
Absolument.
dire que l'injustice augmente.
Bien
Ça veut
sûr.
dire que vous êtes dans une époque où des inventions, ça peut être en médecine, ça peut être
Bien
partout,
sûr.
et les types qui ont fait des inventions sont récompensés en voyant leur patrimoine
Absolument.
exploser à la hausse. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le reste du peuple.
Bien sûr que non.
Puisque ces inventions ont été, si vous voulez, la pénicilline, ça a permis à des sociétés pharmaceutiques de gagner de l'argent contre elles, mais ça a allongé notre durée de vie de 25 ans, et les gens vivent mieux. Donc, si vous voulez, cette idée de. Dans l'histoire, il y a des périodes favorables aux inventions, et à ce moment-là, vous avez des explosions de fortune, comme par exemple tout ce qui était aciérie aux États-Unis dans les années 1870.
Ouais.
Ben, vous avez des gars qui sont faits, c'était la grande période. Puis ensuite, ben, les aciéries se sont pétées à la gueule et
Ouais.
les types se sont pétés à la gueule avec.
Ouais.
Donc, puis vous avez l'invention de la voiture, ça a été les Ford, ça a été les Fiat, ça a été les Peugeot qui ont gagné. Et puis maintenant, bon, ils ramassent. Donc, ces inventions, c'est consubstantiel au capitalisme et c'est les inventions qui permettent. Ce qu'il y a de certain, c'est que de 1917 à 1989, il n'y a pas eu une invention en Russie.
Ouais.
Et ils ne sont pas mieux portés pour ça, quoi.
Oh, le goulag, c'est peut-être une invention russe.
C'est le goulag, c'était une invention russe, oui. Mais dans ce que je veux dire par là, c'est si vous voulez un monde où il ne se passe rien stable et où seuls les professeurs d'économie ont le droit de dire qui peut toucher quoi et comment ouais. et pourquoi, en fait, c'est le marché qui, dans sa grande liberté, décide qui va rémunérer le gars qui a fait une invention plutôt que Monsieur Piketty qui n'a jamais rien inventé et qui a toujours piqué du pognon parce qu'il est payé par l'État.
Ouais.
Je voudrais faire une autre remarque, c'est que j'ai été un joueur de tennis dans ma jeunesse. Honorable, mettons, j'étais à la limite du négatif, donc j'étais dans les 0,2% des meilleurs joueurs de tennis en France, allez. Et donc je faisais des tournois, et dans les tournois, il y avait des prix. Et donc, tant que j'étais pas battu, ils me payaient l'hôtel, la bouffe, etc. Et si j'étais battu au premier tour, et ben, pendant 3 jours, j'allais dormir sur la plage, à la place d'aller dormir à l'hôtel. Donc, il y a une différence essentielle entre un économiste qui vit, comme je le fais depuis 50 ans ou 60 ans, des contacts qu'il a avec les gens qui acceptent de le payer pour qu'il les conseille, et un professeur d'économie qui était comme un professeur de tennis, qui donnait des leçons à la fille du notaire, mais qui n'allait pas prendre le risque du tournoi. Donc, je dis à tous ces gars-là, mais cessez d'être payé par l'État. Si vous voulez alléger le poids, allez et expliquer aux gens qui eux travaillent dans la vraie vie comment ils devraient investir leur argent et tout. Moi, ça fait 60 ans que je vis en risque et si je me trompe, je vais plus bouffer.
Ouais.
Eux, ils attendent tranquillement que le truc payé par nos impôts.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous trouvez quand vous leur parlez? C'est qu'ils veulent augmenter les impôts pour toucher plus eux en prenant pas plus de risques.
Oui.
Mais c'est des ordures.
Oui, non, eux, pour eux, ça leur change pas la vie. Hein. Ils s'en fichent. Si jamais les idées qu'ils développent sont absolument exécrables en termes qualitatifs,
ils resteront professeurs.
Ils resteront professeurs à vie.
Parce qu'ils ont un monopole.
Ouais.
Et ils ont 100% d'emploi. Donc, qu'on ne me dise pas que ces gars-là sont des économistes. Ce sont des professeurs d'économie.
Oui.
C'est comme ouais, être c'est... professeur oui, de tennis ou être professionnel de tennis.
Ouais.
C'est pas pareil.
Oui, c'est vrai. Et alors il y a un deuxième graphique aussi. Alors celui-là je l'adore. Alors celui-là il a pas été sorti par Gabriel Zucman, il a été sorti par Le Monde. Je rappelle que Le Monde quand même ça a la plus grosse rédaction de France et que visiblement ils ont pas trouvé de graphiste compétent ou alors leur objectif était d'induire les gens en erreur, auquel cas le graphiste a parfaitement fait son travail. Vous voyez deux courbes très 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 espacées sur la page 14 de mon document.
Ah oui, ça c'est une courbe, c'est un graphique intéressant ça.
Voilà. Le patrimoine des 10% les plus riches, donc ça c'est la courbe bleue, et le patrimoine des 50%, donc patrimoine moyen dans les deux cas, des 50% des ménages les moins fortunés. Donc vous voyez que dans un premier cas, on part dans les deux cas de 2010, et donc vous avez la courbe bleue, alors celle-là elle bouge énormément, elle va vers le haut, ça prend de l'argent, donc on part de à peu près 1 600 000 euros de patrimoine pour les 10% des plus fortunés en moyenne,
oui.
Et on arrive aujourd'hui à 2,5
millions. Oui.
Et pour les plus pauvres, on part de 55 000 à peu près et on arrive à presque 80 000. Et dans un cas, vous voyez une courbe qui bondit tout simplement, et dans l'autre, vous voyez l'encéphalogramme.
Ils auraient peut-être dû mettre un graphique logarithmique, non ?
Absolument. Ils auraient dû mettre un graphique logarithmique pour mieux visualiser ces chiffres-là, ou alors mettre les deux trucs à des échelles différentes au choix. Mais enfin, ça n'a aucun sens de le voir comme ça.
Attendez, 1 600 000 sur 2 500
000, ouais.
Ça fait une hausse...
Alors j'ai calculé, ça fait une hausse de 52% pour les plus riches. Et pour les plus pauvres, une hausse de 45%. Donc il y a un très léger différentiel,
oui.
On peut en parler éventuellement, un différentiel de 7% sur 15 ans. Mais là, on a l'impression qu'il y a un différentiel de 100%. Quoi.
Oui, puisqu'on a l'impression que les autres sont restés à zéro.
Voilà, exactement. On a l'impression que les autres, ils sont toujours
mais
à
ça, c'est exactement ce qui se passe quand vous avez des gens qui ont qui cherchent à prouver un point, c'est qu'ils font des graphiques qui sont malhonnêtes.
Ouais.
Et parce que je peux pas croire que le graphiste du monde ne sache pas ce que c'est qu'un graphique logarithmique. C'est-à-dire que dans un graphique logarithmique, pour expliquer ce que c'est aux gens qui comprendraient pas, c'est que la même taille sur le graphique, c'est la même hausse en pourcentage.
Mmh.
C'est-à-dire
bien
que
sûr.
C'est ça. Donc, vous ne mettez pas les chiffres absolus,
vous
mettez les hausses en pourcentage. Si vous voulez donc parler de la hausse de là, vous devez mettre encore une fois, non pas les chiffres absolus, mais les hausses.
Oui, tout à fait.
Et là, ils mettent exactement comme ces corneaux qui confond la rentabilité du capital investi et la croissance des bénéfices, c'est-à-dire qu'ils confond vitesse et accélération, ce qui pour un physicien est un peu une erreur, quoi. Ben là, si vous voulez, ils essayent de nous mettre deux vitesses, alors que la seule chose qu'ils devraient mettre, c'est des accélérations des deux, quoi. C'est
ouais,
ça.
Tout à fait.
Donc c'est malhonnête intellectuellement.
Ouais.
Donc, dans le fond, j'en arrive à la conclusion à la fin de ma vie que la gauche est naturellement assassine, comme on l'a vu avec Monsieur
Menteuse aussi.
Mais elle est aussi profondément malhonnête intellectuellement.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Il aurait fallu mettre ce graphique soit en échelle logarithmique, soit le faire en deux parties, c'est-à-dire avec deux échelles différentes.
Soit le mettre la même base 100 tous les deux.
Exactement, les mettre tous les deux en base 100, absolument, c'est tout à fait une possibilité.
C'était une autre possibilité, je suis pas sûr, oui.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que Le Monde est un journal qui ment.
Ouais. Et là, encore une fois, sur les mêmes informations, une autre façon de le voir, c'est, encore une fois, vous avez la courbe rouge en haut. Ça, c'est le patrimoine moyen du top 10%. Et vous avez la courbe bleue, c'est le patrimoine moyen des 50% des foyers les plus pauvres de France. Et c'est exprimé en pourcentage de la richesse nationale. Donc là, c'est la part du gâteau.
Ouais.
Et vous voyez que ça change quasiment pas. Voilà, c'est totalement plat.
Et
depuis
je reviens
2010.
Toujours à ce que je dis toujours, c'est 80% de la richesse en France est détenue par 20% des gens. C'est la loi de Pareto qui s'applique à tous les phénomènes sociaux.
Ouais.
Donc il n'y a pas de raison d'en faire une pendule, puisque où que ça soit dans l'histoire, c'est toujours tout est distribué sur la loi de Pareto.
Tout
donc
à fait.
On retrouve une fois de Pareto dans le fait. Mais par contre, je suis bien persuadé que les 50% ou les 20% les plus riches ou les 10% les plus riches ne sont pas les mêmes qu'à 30 ans.
Oui, absolument, bien
c'est
sûr.
C'est des gens complètement différents. Ce qu'ils essaient de faire croire, c'est qu'il y a une stabilité dans cette courbe.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai vécu quand je faisais mes études, j'étais parmi les plus pauvres. Parce que j'étais étudiant, j'avais pas un rond, etc. Donc j'étais certainement les plus pauvres. Donc, mais je suis pas resté dans la courbe des plus pauvres.
Oui.
Et donc, l'hypothèse qu'ils font toujours, c'est quand ils vous montrent ce genre de graphique, c'est que c'est les mêmes en haut et les mêmes en bas depuis 40 ans. C'est pas vrai du tout.
Oui, tout à fait. Alors ça aussi, il le justifie, parce qu'il y a encore une focalisation sur le top 500 de Challenge. Ils disent, mais regardez, si on prend le top 500 de Challenge, ils ont une rentabilité complètement folle sur ces 15 dernières années, donc ils trouvent plein de moyens pour créer de l'argent, et donc on peut bien leur prendre 2% par an, puisque de toute façon, ils arrivent à en faire plus de 10% par an. Sauf que là, évidemment, il y a un biais du survivant, puisque on prend ceux qui sont arrivés aujourd'hui au top 500, et donc forcément par rapport à il y a 15 ans, ils ont eu une progression absolument fulgurante. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes 500 qu'il y a 15 ans, et d'ailleurs il faudrait voir la différence, à mon avis, qui doit être stratosphérique, de rentabilité, pas de rentabilité, mais de croissance des bénéfices, entre le top 500 d'aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, et le top 500 d'il y a 15 ans, par rapport à aujourd'hui.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire ce que raconte toujours ce bon Thomas Sowell. C'est lui, il a fait des tas d'études là-dessus, et il montre que c'est jamais les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une respiration entre ces différentes catégories qui est considérable.
Ouais.
Et donc, il dit, c'est littéralement mentir aux gens que de leur dire, c'est leur faire penser que si vous êtes dans le bas, vous y resterez toujours, ce qui n'est pas vrai. Et si vous êtes dans le haut, vous y resterez toujours, ce qui n'est pas vrai non plus.
Ouais.
Parce que rester dans le haut, c'est extrêmement difficile, hein.
Il y a une manière que j'adore d'exposer le principe du biais du survivant. Vous avez peut-être déjà vu cette infographie qui montre en gros les principaux endroits où les avions dans la Seconde Guerre mondiale étaient touchés.
Ouais.
Et donc on recevait les avions au sol, on regardait où est-ce qu'ils étaient le plus touchés pour savoir où il fallait remettre des plaques. Et de manière très bête, on se dit là il y a des trous partout, donc là c'est là-dessus qu'il faut vraiment renforcer les avions. Oui, sauf que forcément, en fait, si les avions ils ont atterri derrière, c'est que finalement ils ont résisté à ces impacts. Et tous ceux qui ont eu des impacts beaucoup plus nocifs, c'est ceux qui reviennent pas à la base. Et donc on peut pas voir où est-ce que eux ont été touchés. Donc en fait, il faut renforcer les endroits chez les survivants qui n'ont pas été touchés et non pas les endroits qui ont déjà été touchés.
Et c'est là où les Anglais, comme toujours, ont eu une idée absolument géniale, c'est que le but des Américains, c'est de faire des avions de plus en plus lourds, de plus en plus blindés, etc. Et eux, ils ont fait un avion qui s'appelait le Mosquito, qui était en balsa et en toile, qui n'avait aucun blindage, mais qui allait beaucoup plus vite, qui volait beaucoup plus haut parce qu'il n'avait pas le blindage à traîner.
Ouais.
Et donc, le Mosquito, ça a été le désastre pour les Allemands parce qu'ils se sont fait flinguer par le Mosquito qui était inattrapable parce qu'il allait trop vite et qu'il était, le fait, si vous l'attrapiez, il tombait, mais personne l'attrapait.
Ouais.
Donc, penser en dehors de la boîte comme les Anglais, plutôt que de faire des avions de plus en plus lourds, de plus en plus protégés, c'est de faire un avion qui vole différemment que les autres en étant beaucoup plus lourd, en ayant beaucoup plus léger, en ayant des plus gros moteurs.
Et ouais.
Ben, c'est ça la création.
Tout à fait, effectivement.
Ben, ces crétins-là, ils feront toujours des avions de plus en plus lourds et qui finiront tellement lourds qu'un jour ils vont cesser de voler.
Ouais, oui, c'est un peu ça.
Ils pourront pas décoller.
Ouais, mais ils seront au moins, on pourra pas les transpercer. Ça, c'est...
On pourra pas les transpercer, mais ils voleront pas non plus.
Mais voilà, exactement.
Donc,
ils vont réinventer le
tank. Ces crétins amènent à la paralysie de la société.
Ouais, tout à fait.
On meurt à la fois d'ennui, de stérilité et d'incapacité parce que on peut pas faire ce qu'on aime.
Ouais, tout à fait. Et alors on peut pas tout évoquer dans mon document parce qu'il y a 1000 trucs.
Vous le mettrez sur le site.
On mettra sur le site de l'Université de l'Épargne pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un petit document de 22 pages. Il y a peut-être deux trucs que je souhaiterais évoquer avant la fin de cette émission. C'est déjà le fait qu'on se trompe beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire que pour moi, l'enjeu aujourd'hui en France, particulièrement des politiques publiques, ne devrait pas être de se poser la question de comment maximiser les recettes, mais de comment maximiser la croissance.
On a une croissance qui est en baisse. Comment faire baisser les dépenses.
Voilà, comment faire baisser les dépenses. On a des dépenses sociales qui sont extrêmement élevées en France, on est premier pays de l'OCDE dans ce domaine-là. Bref, on a beaucoup de dépenses, en plus de ça, on a un gros déficit, donc je crois pas que l'urgence soit d'augmenter les impôts. En revanche, on peut essayer de favoriser la croissance. Aujourd'hui, on se félicite avec des tapes dans le dos quand on a atteint péniblement 1% de croissance du PIB.
Et c'est même pas sûr.
Alors qu'il y a d'autres pays, même des économies très avancées comme les États-Unis, qui arrivent à faire 2,5-3% de croissance.
Et l'Espagne a fait
3,5%. L'Espagne, tout à fait, voilà.
L'Italie fait mieux.
Voilà. Sauf que nous avons un capital humain qui est extrêmement capable de créer de la croissance. Simplement, on ne l'enjoint pas, surtout avec des idées comme la taxe Zucman, à créer, et surtout pas à créer en France. Typiquement, là aussi, Gabriel Zucman prend un exemple. Il dit... Mais quand Microsoft a été créé en 1975, aux États-Unis, à l'époque, les taxes sur les hauts revenus étaient de 70%. Donc, les taxes très élevées n'empêchent pas du tout la création. Alors, plusieurs choses à dire. Encore une fois, je reprends les travaux de Philippe Catherine sur cette question. Sylvain Catherine. Alors, déjà, la première chose, c'est que les plus-values étaient sujettes à un abattement de 50% sur l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que le taux maximal de taxation sur un entrepreneur était donc de 35%. Ensuite, on a eu un Revenue Act en 1978 qui a fait passer cette exemption de 50 à 60%, donc le taux maximal de taxation passe à 28%, et il passe ensuite à 20% en 1982, c'est le début des années Reagan, youpi. Et on observe sur ce graphique la relation entre la courbe bleue, c'est-à-dire l'investissement de capital risque, et la courbe jaune, à savoir la taxation des plus-values aux États-Unis. Et on voit parfaitement que lorsque la taxation des plus-values descend, donc à la fin des années 70 et début des années 80, eh bien l'investissement de capital risque explose considérablement. Donc là, c'est l'émergence de la Silicon Valley, etc. Donc oui, mettre des grosses taxes empêche littéralement la création de richesses. Je reprends aussi un autre exemple. La création de boîtes de tech françaises, enfin par des Français, mais dans une catégorie, c'est les boîtes faites en France, et l'autre partie, c'est les boîtes faites aux États-Unis, toujours par des Français, je précise, sachant qu'il y a 200 000 Français qui vivent aux États-Unis. Alors, cette infographie, il faut savoir qu'elle est un petit peu datée, puisque il n'y a pas le cas de Mistral dedans, qui vaut aujourd'hui, qui est valorisé à 14 milliards. Donc, nous avons une Decacorne française. Decacorne, c'est une boîte de tech qui vaut plus de 10 milliards. Nous en avons 4 aux États-Unis. 4 Decacorne. Pareil, dans les entreprises, encore une fois, du secteur de la tech qui sont cotées, elles valent 130 fois plus, le total vaut 130 fois plus aux États-Unis qu'en France. C'est ça. Bon, encore une fois, l'infographie est un peu datée, donc il faudrait voir aujourd'hui. Mais enfin, au moment de l'infographie, toutes les boîtes de tech françaises cotées aux États-Unis, c'est 65 milliards de valorisation. C'est un demi-milliard en France. Donc, absolument ridicule.
Mais c'est grâce à M. Piketty et à M. Zucman qu'on n'a qu'un demi-milliard, parce qu'ils ne sont que les héritiers d'une longue tradition
Bien sûr.
d'imbéciles
Bien sûr.
qui empêchent la croissance de ce pays. Moi, je crois que je suis arrivé à la conclusion, si vous voulez, c'est quand j'étais jeune, j'ai appris l'économie à l'université, et il n'y avait pas de cours d'économie en école secondaire, hein, on n'apprenait pas ça. Puis dans les années 80, on a commencé à faire des cours d'économie, si vous voulez, on a introduit des trucs. Et c'est la pire nouvelle qui soit arrivée pour la France, parce qu'on n'a eu que des professeurs de gauche,
Ouais,
on n'a eu que des professeurs de sociologie,
marxiste ou néo-keynésien.
néo-keynésiens, donc qui déjà les Français comprenaient pas grand-chose avec l'économie, mais avec des gars comme ça comme professeurs, vous êtes certains qu'ils comprendront rien. Vous savez ce qu'on disait aux États-Unis, si vous comprenez pas quelque chose, enseignez-le. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois, il y en a une qui est professeure d'économie qu'on voit tout le temps à la télévision là.
Oui, Sandrine Rousseau, qui est professeure
Oui, Sandrine Rousseau, oui, c'est ça.
à la fac de Lille, ouais.
À la fac de Lille, quand je pense que cette dame a un doctorat en économie,
Oui.
je me dis, mais j'aurais pas aimé être mon élève parce que quelle ânerie. Donc, comment dire, je suis arrivé à cette conclusion, si vous voulez, qu'il n'y a pas une seule idée fausse que le corps professoral français n'a pas embrassé
Enseigner.
avec énormément d'affection, quoi. C'est donc la seule solution à ça, c'est que il n'y ait plus un enseignement centralisé de l'économie, qu'il n'y ait plus un enseignement centralisé tout court, et qu'on rende la liberté d'enseignement au peuple français et aux communes. Comme ça, s'il y a un mauvais professeur d'économie, il sera viré.
Ouais, tout à fait. Un peu plus de Sylvain Catherine et un peu moins de Thomas Piketty, je pense que ça nous ferait le plus grand bien.
Ça ferait le plus grand bien. Et surtout que Thomas Piketty, plus personne ne le paye.
Ouais.
À ce moment-là, il comprendra ce que c'est que de vivre dans la misère.
Effectivement.
Ça lui fera le plus grand bien.
Oui, peut-être, oui.
Il ira décharger des colis au hal, c'est tout ce qu'il sera capable de
Ouais,
faire, le pauvre.
peut-être que quand il verra le différentiel entre le brut et le net, ça le rendra un peu plus libéral, je sais pas.
Non, non, il ne deviendra jamais libéral parce que chez lui, c'est une question de religion. C'est une personne qui est portée par la haine et l'envie. La haine du riche et l'envie parce qu'il ne sera jamais beau garçon. Et c'est terrible, ça.
Ouais. Bon, je crois qu'on a fait un beau petit tour. Il y aura encore 2-3 bonus que vous pourrez voir dans mon document si vous êtes abonné à l'Université de l'Épargne. Et sur ce, bah, je vous remercie déjà pour
Voilà,
votre
et on a dit
attention.
du mal de ces gens, mais on ne pourra jamais en dire assez.
Oui, exactement. Oui, c'est à peu près infini. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur l'Institut des Libertés.
Merci beaucoup. Pour une fois, il ne s'est pas trompé, il n'a pas dit l'université de Paris.